question dont la réponse en étonnera sûrement quelques-uns. Dieu recevra-t-il une adoration universelle un jour? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui élargira notre vision du ciel aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on continue aujourd'hui dans l'étude du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Quel enseignement passionnant, vous trouvez pas? Voici donc nos questions du jour. Quand le livre de l'Apocalypse nous parle de la foule de gens qui se tiennent devant le trône et devant l'agneau, que représentent les robes blanches qu'ils portent? Dieu nous demande-t-il de faire quelque chose pour être sauvés? Est-ce qu'un jour viendra où Jésus sera de nouveau accueilli par des gens qui auront des palmes dans leurs mains et qui l'adoreront? Dieu recevra-t-il une adoration universelle un jour? Qu'est-ce qui va se passer pendant la grande tribulation? Est-il bon de penser qu'une race est meilleure qu'une autre? Dieu veut-il que les Juifs et les non-Juifs forment une seule Église? Quand Jésus nous parle d'un temps de détresse dans le 24e chapitre de l'Évangile de Matthieu, est-ce qu'on peut dire que ce temps fait partie de notre histoire? Restez là, nos réponses ne vont pas tarder. Les Saintes Écritures vont nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur, on a beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Et on sait dans nos cœurs que tu as une réponse pour chacune d'elles. Une réponse qui va faire une différence dans notre vie. Alors aide-nous à nous concentrer, à être concentrés sur toi et sur ta parole. Touche nos cœurs, Seigneur, et transforme nos vies pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous continuons notre étude du chapitre 7 de l'Apocalypse. Lisons chapitre 7, les versets 9 et 10. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, lavé par le sang de l'agneau. » Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Une foule considérable est assemblée devant le trône de Dieu. Ce sont les personnes qui se sont converties au Seigneur Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Après leur dur séjour sur terre pendant ces temps difficiles, ils se réjouissent maintenant de leur salut. Ils ont été rachetés et ils ont tenu le coup malgré les persécutions. Il est possible que la plupart d'entre eux soient morts en martyrs durant la grande tribulation. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 13, notre Seigneur Jésus-Christ parle d'eux lorsqu'il affirme « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Or, la question se pose, ont-ils persévéré jusqu'à la fin en se serrant les dents et les poings? Non. Ils n'ont pas été sauvés par leur propre force, mais parce qu'ils étaient scellés par le Saint-Esprit. Les robes blanches représentent la justice de Jésus-Christ dont ils sont revêtus. Nous ne pourrions jamais nous tenir devant Dieu revêtus de notre propre justice, car celle-ci est un vêtement sale et nauséabond devant lui. Au troisième chapitre du livre de Zacharie, une autre vision prophétique des lieux célestes nous est présentée. Nous voyons le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Celui-ci est Jésus-Christ avant son incarnation. Le sacrificateur est revêtu de vêtements sales qui représentent son iniquité. Et au verset 5, Jésus ordonne, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » La même situation se répète dans notre passage. Ni les élus de la grande tribulation future, ni les élus de l'Église actuelle, ni les grands personnages passés de l'Ancien Testament ne peuvent se présenter devant Dieu revêtus de leur propre justice. car celle-ci est comme des guenilles sales, et nous ne voulons certainement pas nous présenter devant Dieu habillés de cette façon. Sauvés par la seule grâce de Dieu, comment la robe de ses élus est-elle devenue blanche? Comment ont-ils été justifiés par Jésus-Christ lorsqu'il a répandu son sang pour eux sur la croix? Tout comme les chrétiens d'aujourd'hui, ces gens peuvent se tenir devant le trône de Dieu parce que Jésus-Christ a payé la dette de leurs péchés. Il est mort afin que les multitudes qui viennent à lui puissent vivre autant aujourd'hui que pendant la grande tribulation. Dans son plan de rédemption, Dieu a prévu une seule manière de sauver l'humanité, par la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, l'apôtre Paul proclame « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Remarquez bien cette phrase. « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. » L'apôtre Paul ne dit rien de nouveau. Il n'invente rien. Ce qu'il annonce, il l'a lui-même reçu du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas que Dieu nous demande de faire quelque chose. Au contraire, par l'Évangile, Dieu nous fait connaître ce qu'il a fait pour nous. L'Évangile est le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ pour tous ceux et toutes celles qui le reçoivent. Et comment reçoit-on ce cadeau? Par la foi. Certains s'imaginent pouvoir gagner leur ciel en accumulant des bonnes actions pendant leur vie. En réalité, ils insultent Dieu. Si vous offrez un cadeau à une personne aimée et qu'elle sort son portefeuille pour vous l'acheter, ne vous sentirez-vous pas insulté? Et si en plus vous lui offrez un cadeau d'une valeur inestimable, un somptueux palais, et qu'elle sort de sa poche quelques sous en vous disant « Voilà, cela devrait être remboursé pour ta peine », l'insulte n'est-elle pas décuplée en gravité? L'homme qui s'imagine pouvoir compenser pour son iniquité devant Dieu avec quelques bonnes actions sous-estime grandement son réel état de déchéance. Paul écrit encore, cette fois dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, « En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Dieu est riche en grâce. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, il peut vous sauver. Personne ne peut se mettre hors de portée de son pardon ou de son amour. Dans notre passage, la foule devant le trône porte à la main des branches de palmier. C'est là un autre symbole de justice, comme on peut le voir dans le psaume 92, versets 13 et 14. Les justes croissent comme le palmier. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. En écrivant ce passage, on peut supposer que l'apôtre Jean se remémorait l'entrée de Jésus à Jérusalem, décrit dans Jean, chapitre 12, les versets 12 et 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» En fait, cette entrée à Jérusalem, il y a 2000 ans, était davantage une sortie triomphale. Car une semaine plus tard, Jésus allait ressortir de la ville avec une croix sur le dos avant de quitter la terre. Depuis ce temps, une grande foule est venue à lui en proclamant sa victoire sur la mort. Il s'agit de l'Église. Et dans un futur indéfini, pendant la grande tribulation, une autre grande foule l'acclamera. En ce jour-là, dans les lieux célestes, notre Seigneur Jésus effectuera une autre sortie triomphale sous les acclamations. Il reviendra alors sur la terre pour y établir son royaume. Un glorieux tableau. Apocalypse, chapitre 7, versets 11 et 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Dans ce passage, les créatures de Dieu proclament le Très-Haut dans une scène fabuleuse et merveilleuse d'adoration universelle. L'Église s'y trouve, les élus de l'Ancien Testament s'y trouvent, et les martyrs de la grande tribulation sont également au rendez-vous. Et ici, ils sont rejoints par le groupe des anges, des vieillards et des êtres vivants que nous avons déjà rencontrés au chapitre 5. Ce passage est utile pour élargir notre vision et notre compréhension du ciel. Beaucoup de gens pensent que seuls les membres de leur propre congrégation ou de leur propre dénomination seront sauvés. Je l'ai dit et je le répète. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église qui sauve, mais le sang de Jésus-Christ, versé pour nos péchés. Nous n'avons qu'à recevoir ce cadeau gratuit par la foi pour être sauvés. Le ciel ne sera pas seulement peuplé des élus de l'église. Nous y trouverons aussi des personnages illustres de l'Ancien Testament et des rescapés de la grande tribulation. Cela nous aide à aimer Dieu davantage et à l'adorer avec encore plus de ferveur, en esprit et en vérité. Dans les prochains versets, un des anciens s'adresse directement à l'apôtre Jean, ceux de la grande tribulation. Nous lisons les versets 13 et 14 de l'Apocalypse chapitre 7. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et... « D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Un des vieillards se tourne alors vers Jean et lui demande, « Jean, qui sont ces croyants habillés de robes blanches ?» En répondant, « Mon Seigneur, tu le sais. » L'apôtre Jean confesse son ignorance. Il s'agit ici d'une expression pour dire que lui-même n'en sait rien. Lorsqu'on nous pose une question dont nous ne connaissons pas la réponse, nous avons dans la langue populaire une expression semblable lorsque nous répondons « Dieu seul le sait ». La réponse de Jean signifie « Je l'ignore ». Tu sais que je ne le sais pas, alors dis-moi qui sont ces gens et d'où ils viennent. Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Si la foule rassemblée là était l'Église, l'apôtre Jean l'aurait su. Il écrivait aux croyants de l'Église et il supervisait à ce moment au moins sept églises locales dont nous avons vu la description au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Mais l'apôtre Jean ne sait pas qui sont ces gens. Le vieillard, qui représente l'Église, maintenant rendu au ciel, sait fort bien que cette foule ne fait pas partie de l'Église, car lui-même en fait partie. Il s'agit d'un autre groupe. C'est pourquoi il répond à l'apôtre Jean que cette foule vient de la grande tribulation. La grande tribulation sera un temps d'intense catastrophe, où les élus de Dieu seront persécutés. Si vous faites partie de l'Église, et que vous vivez actuellement en Amérique ou en Europe, pouvez-vous dire que vous venez de la grande tribulation? Bien sûr, vous et moi sommes peut-être parfois confrontés aux moqueries et au mépris de certains perdus, mais cela ne fait pas de nous des martyrs de la grande tribulation. Le groupe dont il est question dans notre passage est différent de l'Église actuelle. Il est vrai que, dans certains pays, des chrétiens sont aujourd'hui persécutés pour leur foi. Mais, dans la majorité des pays, les chrétiens jouissent d'une liberté de culte. Cela ne sera plus le cas pendant la grande tribulation. Or, l'Église sera enlevée de terre peu avant la grande tribulation. Ce groupe est composé d'élus qui témoigneront de Jésus-Christ et qui viendront de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue pendant la grande tribulation. Nous vivons dans un temps où la seule distinction réelle aux yeux de Dieu est celle entre les perdus et les sauvés. Aux yeux de Dieu, il n'existe pas d'autre distinction de race, de culture ou de couleur de peau. Si vous pensez qu'une race est meilleure qu'une autre, la parole de Dieu a un message pour vous. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Je vais vous en faire la lecture. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. En d'autres mots, nous devons nous garder d'offenser quiconque. Dans ce verset, les Grecs sont en réalité les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Les Juifs sont le peuple de l'Ancienne Alliance et l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Tous les hommes et toutes les femmes sont donc représentés. Et l'apôtre Paul nous enseigne de n'offenser personne, mais de proclamer la vérité avec fermeté, mais sans provocation inutile. Au temps où cette lettre a été écrite, les Juifs méprisaient les gentils qui ne faisaient pas partie de leur nation, et les Grecs méprisaient les barbares qui ne faisaient pas partie de leur culture. Mais Dieu, dans sa parole, nous enjoint de respecter tous les hommes. Juifs et gentils. Or, pendant la grande tribulation, nous trouverons seulement deux groupes, les Juifs et les gentils. Car l'Église aura disparu. Elle sera avec Jésus-Christ au ciel, selon sa promesse énoncée dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, les versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'Église est avec Jésus dans les cieux à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, l'apôtre Paul nous enseigne « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Dieu appelle les deux groupes. Les Juifs et les Grecs, ou gentils, a formé une seule Église dans un seul Esprit Saint. Et cette Église sera enlevée du monde avant la grande tribulation. Le plus étrange, c'est que même dans nos Églises confortables et libres, plusieurs chrétiens semblent remettre en question la souveraineté de Dieu. Ils sont scandalisés par un monde qui s'enfonce de plus en plus profondément dans l'iniquité et la corruption. Pourtant, Dieu fait aujourd'hui exactement ce qu'il a toujours annoncé qu'il allait faire. Il appelle son peuple hors de ce monde, et il accomplit un excellent travail. Bien sûr, les journaux du monde ne rapporteront jamais les exploits de Dieu. Mais je puis vous dire ceci. Dans notre petit ministère d'évangélisation, nous atteignons par la radio, par la télévision et par l'Internet des francophones d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Les gens se laissent endoctriner par les valeurs du monde pendant leur enfance, leur adolescence et parfois une bonne partie de leur vie adulte. Mais un beau jour, ils entendent pour la première fois la vérité de l'Évangile et ils reconnaissent immédiatement la voix du bon berger. Sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, ils se repentent de leurs péchés et par la foi, ils reçoivent personnellement Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Dieu appelle à lui ceux qui lui appartiennent, peu importe où ils sont. Certains chrétiens semblent s'attendre à ce que le monde entier se convertisse et remplisse nos églises. Dieu n'a jamais promis rien de tel. Il nous a dit de répandre l'Évangile à travers le monde, mais il ne nous a jamais promis une pêche miraculeuse à tous les coups. La grande tribulation à venir. Mais ici, l'apôtre Jean nous fait comprendre que ce groupe ne fait pas partie de l'Église. Ils viennent de la grande tribulation. Dans la Bible, un synonyme de tribulation est détresse. Jésus lui-même parle de ce temps dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Certains commentateurs prétendent que ces temps de détresse font partie de notre histoire. Selon eux, Jésus fait référence à la chute de Jérusalem aux mains de Titus quelques décennies après sa crucifixion. Bien sûr, je n'aurais souhaité à personne de se trouver en Judée vers 70 après Jésus-Christ, quand l'armée romaine est arrivée pour tout détruire et massacrer. Mais, au niveau de la détresse, peut-on vraiment comparer ce temps à l'hécatombe planétaire pendant la Deuxième Guerre mondiale? Je ne le crois pas. Or, le temps de détresse dont Jésus parle sera plus intense que tout autre dans l'histoire de l'humanité. Jésus identifie l'épicentre de cette détresse quelques versets auparavant, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 16. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Lorsque nous avons étudié le livre de Zacharie, ce dernier était formel. La dernière grande bataille aurait lieu aux environs de Jérusalem. Nous verrons plus tard, au chapitre 16, que Dieu réunira les rois de toute la terre pour qu'ils combattent le peuple de Dieu au jour de l'Éternel. Et tout cela appartient au futur, au temps de la grande tribulation. Je le répète, lorsque le vieillard lui pose la question, l'apôtre Jean n'est pas en mesure d'identifier qui que ce soit dans la grande foule. Si elle avait été l'Église, je pense que l'apôtre Jean aurait été capable d'en reconnaître quelques-uns. Dans Jean, chapitre 21, l'apôtre reconnaît le Christ ressuscité alors que même l'apôtre Pierre ignore l'identité de leur interlocuteur. Or, le vieillard identifie la foule, ce sont les gentils, rachetés, qui viennent de la grande tribulation. Retournons à notre texte de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 15 à 17. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil, ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Dieu dressera sa tente sur eux afin d'assurer leur protection. Ce groupe est passé par la grande tribulation. Selon moi, la plupart d'entre eux ont péri par le martyr, mais leur âme a été préservée par la grâce de Dieu. Même si la Bible ne spécifie comment ils sont morts, elle nous les présente comme un groupe se tenant devant le trône de Dieu dans les cieux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. S'ils n'auront plus faim ni soif, c'est qu'ils auront eu faim et soif pendant leur vie terrestre. Ils auront été frappés par le soleil et la chaleur. Ils auront pleuré, mais Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils auront traversé la sombre période de la grande tribulation grâce au sang de l'agneau. Le bon berger possède d'autres agneaux provenant d'autres troupeaux. Il enseignait ainsi ses disciples. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il pourrait enseigner la même chose à son Église aujourd'hui. Je possède d'autres brebis dont vous ne savez rien. Ces gentils sont d'autres brebis qui seront rachetées, mais qui ne font pas partie de l'Église. Et vous, cher ami, êtes-vous une brebis rachetée appartenant au troupeau du bon berger, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ? Celui qui entend sa voix le suit. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 8, le verset 1. À vous tous, une bonne et agréable lecture.
Merci beaucoup, Régent. Quel verset excitant à entendre! Apocalypse 7, 11 et 12. Mes amis, permettez-moi de les répéter et que ça puisse être un puissant encouragement pour tous les croyants qui nous écoutent en ce moment. Parce que, comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui, ça nous inclut, nous, l'Église de Jésus-Christ. Alors, je les lis. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Mes amis, comme Régent nous l'a si bien expliqué aujourd'hui, les créatures de Dieu qui proclament le Très-Haut dans une scène fabuleuse et merveilleuse d'adoration universelle incluent l'Église de Jésus-Christ. Wow! Comme le dit le proverbe humain, « Je ne manquerai pas ça pour tout l'art au monde. » Mon frère, ma sœur, as-tu hâte d'être rendu là, au ciel? Moi, oui. Être en train d'adorer mon Dieu avec les anges. Peux-tu imaginer comment ce sera beau? Ça me rappelle un chant qu'on faisait à l'église dans mes premières années de vie chrétienne. Le titre est « Contempler mon Dieu ». Voici ce que les paroles disent. « Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. » dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Et toi, mon ami, toi qui n'as pas cette certitude de vivre avec Jésus dans le ciel un jour, aimerais-tu l'avoir? Tu n'as qu'à croire en lui seul pour le pardon de tes péchés et pour le don gratuit de la vie éternelle. Alors, mon ami, la Bible dit que Dieu est trois fois saint. Elle nous dit que nous, par contre, nous sommes des pécheurs. Et le péché, ben, il amène une séparation entre Dieu et nous. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, que ce sont nos fautes qui ont creusé un abîme entre Dieu et nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la bonne nouvelle se trouve tout de suite après une mauvaise nouvelle dans le troisième chapitre de l'Épître de Paul aux Romains. Voici premièrement la mauvaise nouvelle. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et voici la bonne nouvelle au verset 24. « Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Alors, mon ami, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà la bonne nouvelle. Place ta confiance en Jésus seul pour le don gratuit de la vie éternelle.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.